France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Rémi Sistiaga à la console. C'est une première dans l'émission. Deux frères sont nos invités, deux philosophes, qui ont accepté de nous faire réfléchir à ce que signifie pour la vie entière une fratrie. Dans la fratrie, il peut aussi y avoir des sœurs, figurez-vous. C'est leur cas et c'est aussi celui du pédopsychiatre Marcel Ruffo.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Il y a des petites choses poétiques qui peuvent parfois être vraiment définitives. Vous voyez un dauphin en mer, tous les deux en même temps, que les grands n'ont pas vu, quoi. Lorsque le cerisier est en fleur, vous mangez plus de cerises. Puis vous avez une difficulté en rédac et votre sœur vous l'a fait. Et vous avez une bonne note et elle vous fait de l'œil, vos parents l'ont pas su. Enfin, c'est une sorte de complicité, d'intimité, de souvenirs agréables et poétiques et partagés qui font... Finalement... Les frères et sœurs, quand ils sont âgés, moi j'ai discuté avec des fratries anciennes, donc, parce que la fratrie devient toujours enseigne, ils disent toujours quelque chose qui est très juste. Les gens avec lesquels on vit le plus longtemps sont nos frères et nos sœurs. Nos parents vont partir et les couples se disloquent ou viennent tard dans la vie. Finalement, celui qui accompagne notre enfance et notre vie le plus longtemps, c'est notre frère et notre sœur, et à ce niveau-là, c'est un souvenir d'enfance, quoi, un frère et une sœur. C'est une actualité de nos souvenirs du passé.
François Cusset, Yves Cusset, c'est vous, les frères en question. Complicité, intimité, dit Marcel Ruffo. Est-ce que vous reprendriez cela à votre compte? François Cusset, c'est vous l'aîné?
Oui, bah ça, l'évidence, c'est que on est amené à se voir encore longtemps, et sur une vie, ça fait long. Il faudrait peut-être ajouter à ce que dit Marcel Ruffo que on n'a pas choisi cette relation-là, qu'elle nous a été imposée par la nature, la famille, et que, voilà, à ce titre, elle est très différente d'une relation amoureuse ou amicale. Mais effectivement, ce qui est très beau, c'est cet arc temporel incroyable qui va des souvenirs d'enfance que moi j'ai pas, mais Yves vous les racontera, il s'en souviendra sûrement mieux que moi, jusqu'à, voilà, ces heures tardives où on pourra, devant le feu hivernal, se souvenir, quoi.
Yves Cusset, il faudra vous y faire. François n'est pas amoureux de vous.
Bon, c'est vrai, on n'est pas tombé amoureux, mais après, je pense que ça peut arriver entre des frères ou des frères et des sœurs de découvrir l'amour, d'en prendre conscience finalement à un moment donné de leur vie. Alors ce qui est joli dans ce que dit Marcel Ruffo, c'est que c'est une vision quand même très tendre et très optimiste.
Et quelquefois idyllique même, hein, il y a des frères et des sœurs qui s'engueulent.
Ah non, ben il y a surtout ça. Et une vision assez, en tout cas optimiste, pourquoi pas idyllique de la fratrie, mais... Surtout tendre, c'est-à-dire j'aime bien ce regard-là qui consiste à dire c'est d'abord l'actualité du passé, cette manière de garder vivant les souvenirs d'enfance et d'en faire une sorte de patrimoine commun dans la relation. C'est ça l'art de vivre, même si on n'a pas choisi de vivre entre frères et sœurs, c'est de perpétuer ce patrimoine commun, et puis surtout de pas être dans la nostalgie, de le faire revivre aussi en permanence et au quotidien.
Dans la fratrie, il y a donc deux sœurs. Alors, vous allez nous expliquer. L'aînée est une fille.
C'est Sophie.
Ensuite, il y a...
Catherine.
Catherine Cusset, romancière bien connue. Ensuite, il y a vous, François.
Absolument.
Et vous, Yves, vous êtes arrivé 3 ans après François. Est-ce que la place qu'on occupe dans la fratrie a une réelle importance? Est-ce que, par exemple, quand on est le frère aîné, on a des devoirs vis-à-vis de son frère cadet? Est-ce que quand on est le cadet, on est le chouchou et au détriment de l'aîné?
Peut-être que le cadet, justement, peut répondre avant l'aîné.
Alors, Yves Cusset.
Il y a plusieurs dimensions, mais l'ordre de naissance, on s'y est pas beaucoup intéressé en philosophie. Pas même énormément, je crois, après je m'y connais pas assez en psychanalyse. L'ordre de naissance... en y réfléchissant avant l'émission, je me disais, c'est quand même un élément déterminant, même dans le destin existentiel. Au-delà même des questions morales, qu'est-ce qu'on doit aux plus petits? Alors ça, peut-être que Marcel Ruffo s'y est intéressé, cette dimension de complicité qui naît, il en parle d'ailleurs un petit peu, de l'assistance que doit, pour ainsi dire, l'aîné au cadet, de l'aide qu'il peut lui apporter. Et on est toujours, de toute façon, dans la relation entre frères ou entre frères et sœurs, mais surtout entre frères, je crois, on est toujours dans l'ambiguïté. Il y a une complicité extrême qui est toujours au bord de la conflictualité. Hein, il y a toujours ce risque de basculement. Et aider son petit frère, l'assister, c'est aussi potentiellement pouvoir l'écraser et le dominer.
L'étouffer.
Voir l'étouffer. Donc, cette ambivalence, elle est toujours là et elle fait partie de la relation. C'est ni négatif ni positif, ça va pas se transformer en espèce de conflictualité irréductible. Ça peut, parfois, malheureusement, dans certaines relations entre frères. Mais on doit faire. Le plus souvent, on doit faire avec cette ambivalence. Et c'est jamais totalement d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui la rend à la fois forte, puissante et toujours fragile, exposée au conflit.
Si on était dans un débat électoral, je dirais, François Cusset, que vous avez un retard de parole considérable.
Je vous remercie, Patricia.
Évidemment, qu'est-ce qui parle ?
Toute ressemblance avec des personnes réellement existantes est fortuite. Non mais, l'ordre de naissance, oui, absolument, Yves le sait, est déterminant. Mais c'est comme, justement, toutes ces histoires de fratrie et de famille. La vie consiste à essayer quand même de s'en arracher. Et effectivement, c'est un destin violent, l'ordre de naissance. Personne, de la même manière, il ne faut pas dire que le 20 ans est le plus bel âge de la vie, il ne faut surtout pas dire que le cadet ou le plus jeune est systématiquement le chouchou, etc. Donc en gros, voilà, liberté à l'aîné de ne pas être responsable et de faire n'importe quoi, liberté au cadet de finir plus grand, en quelque sorte, hein, à la fois physiquement et pour le reste, que ses aînés, etc. C'est-à-dire, je pense que, oui, il y a cette espèce de combat interminable pour s'arracher à cette espèce d'ordre naturel très pénible, qui est quand même celui de l'état civil et celui de la date de naissance, toutes choses de l'origine et de la biologie qui, voilà, moi, me font un peu frémir. Je sais pas, voilà, chaque famille a ses histoires, mais on a chacun à notre manière essayé de nous arracher à ce truc-là. Ouais.
Alors, nous en parlions tout à l'heure, Catherine Cusset est l'une de vos sœurs. On va l'écouter, c'était au moment de la parution de ce roman La définition du bonheur, donc il y a déjà quelques années, enfin en 2021. Elle était au micro de Guillaume Herner sur France Culture.
Bon, déjà le titre, chez moi, c'est souvent une antiphrase, donc c'est évident que quand je dis La définition du bonheur, attention, c'est pas un programme, c'est un roman. Mais quand même, en fait, c'est ce que vous disiez juste avant, Guillaume, toute vie est pleine de malheur et de bonheur. Par contre, on est toujours dans une quête du bonheur, je pense qu'on essaye de se rendre malheureux. Et mon roman, il est vraiment sur la vie. Et sur la vie de ces deux femmes. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir tous les événements d'une vie. Et j'aurais pu appeler ce roman aussi « Bref moment de bonheur », parce que Clarisse, c'est comme ça qu'elle fait l'expérience du bonheur. C'est dans des moments de grande intensité, de très très grand bonheur dans l'amour, surtout dans la passion avec des hommes. Et quant à Ève, son bonheur à elle, il est plus dans la construction, la durée, la construction de la relation avec son mari sur 30 ans, avec ses filles et dans le travail. Donc c'est une forme de bonheur tout à fait différent. Et ces deux femmes, évidemment, se regardent l'une l'autre quand elles se rencontrent et peut-être qu'elles envient chacune le bonheur de l'autre.
Catherine Cusset, qui vient de publier un livre sur un des amours de sa vie, qui est Marcel Proust, mais qui puise beaucoup dans sa propre vie et dans la vie de ses proches pour... C'est très inspirant, disons, pour elle. Donc forcément, vous êtes dans son œuvre. Et je pense à un livre que j'avais adoré d'elle, qui est paru il y a déjà quelques années, qui était La haine de la famille. En fait, c'est votre mère à tous qui est censée avoir la haine de la famille, une haine toute relative. Est-ce que vous vous reconnaissez quand vous figurez dans ces bouquins ?
Non, pas toujours. Il nous est arrivé même d'être fusionnés en un seul. Alors là, en toute humilité, on est quand même, et heureusement, des personnages assez secondaires du grand roman familial qu'écrit Catherine. Mais c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, parce que ces derniers mots, là, quand la voix commençait à baisser, c'était le fait d'envier le bonheur de l'autre. C'est étrange comme formule, parce que on pourrait dire que c'est un des dangers de la fratrie. Une fratrie raté ou conflictuel ou mal à l'aise, voilà, c'est cette rivalité consistant à au lieu de témoigner des malheurs et des bonheurs de l'autre, d'éventuellement les envier, sans pouvoir l'avouer évidemment au dîner de famille. Moi, je lis Catherine, je me retrouve pas dans ce qu'elle dit. Je pense pas que cette quête du bonheur soit l'unique, notre unique objectif. Et puis, je pense que personne ne vise spécifiquement le malheur. Mais il est sûr que c'est assez singulier d'avoir cette espèce de roman familial, comme disent les psychanalystes, ou ce roman d'autofiction, comme disent les critiques littéraires, écrit sur nous, hein, au sens collectif, depuis quelques décennies maintenant. C'est assez spécial, ouais.
Yves Cusset ?
Oui, si on recherche effectivement dans la littérature les œuvres consacrées à la fratrie, il y en a pas tant que ça. Il y a quand même les frères Karamazov, mais ils sont trois.
Je croyais que vous alliez dire les frères Bogdanov.
Il y a aussi les frères Bogdanov, mais bon, ça c'est autre chose.
Ils sont plus que
ils sont trois. Il y a toujours la triangulation du rapport. Alors là, du rapport au père en l'occurrence. Donc c'est important. Il y a quelques figures dans la littérature. Il s'agit pas de s'attarder là-dessus, mais au fond, Catherine, vous pourrez faire partie de ces auteurs qui, eh bien, font de la fratrie. Et, je sais pas si on, la soror la
C'est très compliqué, en fait. Il y a
sororité.
La sororité.
Oui, mais
fraternité,
mais l'équivalent, est-ce qu'on dit la sororité, je ne le sais pas, en fait.
Inventant.
Donc, l'équivalent féminin de la fratrie, puisque je crois qu'elle s'est plus intéressée quand même à la relation sœur-sœur. Et c'est vrai que c'est assez révélateur. François dit qu'il se reconnaît pas. Moi, j'ai pas besoin de me reconnaître parce que j'y suis quasiment pas. Mais c'est très bien, c'est révélateur. Elle va pas tricher avec ça. C'est-à-dire que notre relation était assez lointaine.
Parce qu'elle était beaucoup plus âgée que vous. Oui, c'est ça.
Elle est plus âgée et au fond, elle s'est plus construite à l'âge adulte qu'à travers l'enfance. Donc, c'est normal que dans ce roman familial où l'enfance est forcément omniprésente, j'y sois moins présent dans le regard de ma sœur. Mais ça m'a jamais posé de problème.
François Cusset, Yves Cusset, vous êtes les invités de leur philo. Vous nous parlez donc de votre relation de frère, de la fratrie à la fraternité. Nous franchirons le pas au cours de cette émission. Et bien sûr, nous évoquerons, n'ayez crainte, vos œuvres respectives.
Thank you.
Lana Del Rey, Bluebird. François Cusset, Yves Cusset, il se trouve que vous avez choisi quand même la philosophie, tous les deux. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'on vous y a poussé d'une manière ou d'une autre? Pourquoi? Parce que c'est pas forcément courant, ça, d'être deux à travailler dans la même discipline.
Alors, je préciserai deux choses. D'abord que le vrai philosophe, en tout cas au plan disciplinaire et de l'éducation, c'est Yves et non pas moi, parce que j'ai fait des études de littérature au départ.
Mais vous êtes tous les deux passés par l'école normale supérieure.
Voilà. Et on.
Enfin, vous êtes trois à l'avoir fait, parce que la sœur aînée est médecin, mais Catherine Cusset, elle a aussi voilà, fait l'ENS.
Trois normaliens et une fille normale, comme ils disent, pour décrire la famille.
D'accord.
Et après, ce qui est intéressant, et c'est là où il y a, je pense, comme une équidistance à la philosophie chez Yves et moi, il me semble, enfin je veux parler à sa place, mais c'est qu'on a eu deux manières très différentes, mais assez complémentaires, de lui faire un enfant dans le dos à la philosophie. Vous savez, c'est une expression de Gilles Deleuze. C'est-à-dire de ne pas faire de la philosophie, institutionnelle et classique. Moi, je dirais en racontant l'histoire, au sens presque romanesque du terme. Y compris ses circulations mondiales, ses effets politiques, ses conséquences. Moi, ça m'intéresse plus que ses origines et ses textes. Et Yves,
pourquoi
carrément...
Pourquoi on t'a appelé aussi tantôt philosophe, tantôt historien des idées?
Voilà, oui. C'est drôle de
même
formule.
Si c'est un peu tristoun, historien des
oui,
idées.
Mais c'est vrai que
c'est
ça.
C'est sûr que c'est plus tristoun sur un CV que vous, Yves. Voilà, c'est comédien. Philosophe, comédien.
Et oui. Voilà, et Yves, allez, je vais le laisser parler, mais évidemment, c'est du côté carrément de la performance, donc de la philosophie jouée sur scène, et du côté du rire et de l'humour libérateur et qui fait penser. Donc, on est quand même, dans les deux cas, assez loin de la philosophie scolaire.
Ben oui, ça me rappelle... Le titre d'une chronique de mon camarade Nassim El Kabli sur France Culture et qui a fait un livre, ça s'appelle Le vrai métier des philosophes, et il montre comment philosophe n'est pas un métier qui existe en fait. Tous les philosophes font autre chose, mais comment en fait cette autre chose est déterminant dans leur rapport philosophique au monde et dans leur œuvre philosophique. En plus, Nassim a eu la gentillesse de me mettre dans ses chroniques, voilà. Et moi, mon vrai métier, dit-il, c'est humoriste, et c'est comme ça que je fais de la philosophie. Bon, je sais pas si je trouve ça encore plus prétentieux de s'appeler humoriste que philosophe, comme si ça pouvait être un état, quoi. Pour moi, l'humour, c'est un truc rare comme ça, ponctuel, et on peut pas dire qu'on est un praticien professionnel de l'humour. Mais bon, pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui a déterminé, comme dit François, une forme de rapport oblique à la philosophie, une autre manière de la redécouvrir après des études, finalement. Très classique, académique en philosophie.
Il est drôle dans la vie, Yves, ou pas, François?
Moins que François.
C'est vrai?
Il est drôle, mais il a cette particularité, c'est-à-dire que c'est un vrai comique parce qu'il est désespéré. Donc, il est drôle, mais il rit peu.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre à quatre mains? Je pensais à ça parce que là, on a beaucoup parlé ces derniers temps avec le Festival de Cannes des Frères Dardenne, qui tournent toujours ensemble. Est-ce que vous, ça pourrait vous... Vous seriez les nouveaux Flora et Benoît de Groult?
Henry et William James, qui même s'ils n'ont pas écrit ensemble. Moi, j'aimerais beaucoup. Après, j'ai jamais compris cette expression à quatre mains, parce qu'à l'époque où on tenait un crayon dans une main, je vois pas ce qu'on ferait de l'autre. Mais voilà. Mais après,
On se tient la main, par l'autre main, on se la tient.
Voilà, exactement. Ou on se fait des chatouilles fraternellement. Non, moi, j'aimerais beaucoup. On a d'ailleurs écrit un ou deux articles ensemble. Oui. Alors évidemment, un livre, c'est plus compliqué.
Moi, je parle vraiment d'un bouquin.
Ce serait
tout à fait. Ça engage la question du style. Un article plutôt théorique, c'était sur la question de l'hospitalité qui nous tient à cœur tous les deux. On était dans un contenu plus théorique, même si c'était écrit aussi. Donc la question du style se pose, de la singularité du style. C'est curieux. Par rapport aux frères Dardenne, je me disais aussi avant de venir, mais des fratries, on en connaît dans le cinéma, et des frères et des sœurs qui réalisent des films ensemble, qui mettent en scène ensemble. Ça paraît aujourd'hui presque naturel. Des frères et des sœurs qui écrivent ensemble, bah non, ça n'existe pas. Je me dis pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple à partager dans le regard sur le monde que dans le style et la singularité du style d'écriture ? Parce qu'il y a un style aussi dans le regard. Enfin, une caméra, c'est un style, c'est une personnalité. Mais est-ce que c'est plus simple de faire fusionner les regards par la caméra que par le stylo ? C'est une vraie question, j'y ai pas de réponse. Mais la réponse factuelle, elle semble être que c'est plus simple en tout cas dans le cinéma.
Alors venons-en à vos œuvres respectives. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Elon Musk ouvre le bal.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk. What victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This is a fork in the road of human civilization.
Okay.
This you know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one this one really matters.
Ah, qu'on aime son rire et on a gardé les applaudissements en l'état. C'était donc Elon Musk après l'élection de Trump. Vous l'entendez, il est fou de joie. Et, salut nazi, je crois, lui avait même échappé. Pauvre Musk, hein, trois petits tours et puis s'en va puisqu'il n'a pas... L'objectif qu'il s'était fixé n'est point atteint avec les 1000 milliards de dollars d'économie. Et en plus, sa fusée explose en vol. Mais il n'empêche, François Cusset, petit Musk... Contes et légendes, conte écrit COMPTES, c'est donc le titre du dernier livre que vous publiez et Musk vous a largement inspiré. Ce petit Musk, il ne semble d'ailleurs pas le Musk, il est pas petit, il est grand, c'est un personnage assez solitaire. Vous êtes senti inspiré par Musk ?
Pauvre Musk, comme vous y allez, Patricia, c'est pas exactement l'adjectif que je lui accolerais.
Mais bon, si, moralement, je dis pauvre Musk quand même.
Non, mais il a fait effectivement un petit tour, mais assez dévastateur par le gouvernement américain.
En plus, la vente des Tesla en Europe s'écroule. Enfin, quand même, il a bien des ennuis.
Il dira bien, il en a sous la pédale.
C'est vrai.
En revanche, voilà, moi, ce petit livre, donc Petit Musk, est un conte du Moyen Âge, parce que voir ce personnage sur les scènes du pouvoir et aux côtés du roi Trump, là. Nous a fait penser, je crois, à tous, hein, qu'on est quand même dans un moment un peu féodal, voire largement féodal, qu'on est au Moyen-Âge, avec des espèces de princes ultra-brutaux, avec des rapports sociaux qui sont médiévaux.
Des grands paradoxes, des temps peu hospitaliers, un moment d'égarement, on peut dire
aussi. Oui, et puis avec ce moment où la fiction, quand même, est toujours en dessous de la réalité, c'est-à-dire ce truc prométhéen complètement dingue, consistant à aller sur Mars, à faire exploser Mars avec des bombes atomiques pour peut-être y vivre un jour, tout est dingue, et tout étant dingue, ça se prêtait à un conte plus qu'à un essai critique, donc j'ai voulu rédiger un petit conte rapide dans une sorte de faux langage du Moyen-Âge, donc assez rigolo, pour raconter l'ascension et pas exactement la chute, hein, on va pas le spoiler, de ce personnage que donc j'ai appelé Petit Musk avec un C, mais qui est exactement, très littéralement, le parcours de Elon. C'est comme ça que Trump le prononce.
Et dit que ça devient Petit
Musk.
Vous avez déjà lu, parce qu'il sort que le 19 juin, hein, je crois.
Oui, voilà.
Donc, vous ne l'avez pas
en
lu.
En avant-première,
encore, si vous l'avez vu.
J'ai le droit de le lire. Parce que, figurez-vous que c'est mon frère qui l'a écrit, François Cusset, et je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer un PDF, et il est très gentil, il me l'a envoyé. Ouais. Alors, c'est plus dur à lire un PDF, mais c'était bien. Hein. C'est un conte médiéval, donc voilà. Il est très talentueux pour écrire des contes médiévaux. Et il faudrait qu'il fasse des contes médiévaux. Non, c'est pas le reste, c'est pas mal non
vous,
plus.
Non, mais vous lisez mutuellement, vous vous adressez d'ailleurs des critiques
se lit, on s'adresse des éloges et des critiques. Oui, on se lit avec, moi en tout cas, je le lis avec grand plaisir. Et je crois qu'on a un peu besoin aussi de la distance, qui n'est pas nécessairement une distance critique, mais un peu, qui est le fait qu'on n'écrit pas les mêmes choses, même en termes de position philosophique et politique, c'est pas exactement les mêmes. Et ça, moi, je trouve ça très précieux. Il y a certains commentaires de Yves sur mes essais, même d'il y a 15 ou 20 ans, qui ont été infiniment précieux parce que, oui, il y a vraiment une complémentarité. Et là, on revient à la fratrie, c'est-à-dire que oui, il me connaît mieux que même mes meilleurs amis. Donc de ce point de vue-là, ouais, sa lecture est très précieuse.
Est-ce qu'il vous a appris, je parle d'Yves, et la question s'adresse à vous François, est-ce qu'il vous a appris des choses sur l'amour? Parce qu'il écrit beaucoup sur l'amour.
C'est vrai. Est-ce que je t'ai appris?
Non, oui, voilà, j'ai demandé à François, vous ne parlez pas. Yves.
Mais je le redis, parce que c'est pour m'approprier la question.
Il m'a tout appris sur l'amour, sans lui je ne serais rien. Oui, mais sur plein de choses, enfin, c'est-à-dire que le plaisir, mais pas plus sur l'amour que sur le reste, hein, que sur le rire, la pensée, l'accueil, ou l'insupportable accident d'être né, puisque c'est quand même ça son obsession à Yves, c'est quand même le fait que ça commence très mal cette affaire. Et c'est vrai, ça commence mal, alors je ne sais pas si ça finit bien, mais ça commence mal. Quoi. Donc c'est plutôt là-dessus, moi, que... Voilà, que Yves m'a beaucoup appris, mais ce qui est incroyable, c'est la polyvalence, parce que effectivement, moi, mon rêve quand j'étais petit, c'est d'avoir une carte de visite où il y aurait écrit spécialiste. D'ailleurs, à une époque, j'en avais une spécialiste. Donc, c'est-à-dire spécialiste de tout. Eh ben, je pense qu'on aurait la même carte de visite avec Yves.
Et une petite philosophie de la fin de vie, ça aussi, vous l'avez écrit, Yves. C'est un de vos livres.
Oui, effectivement, je m'intéresse pas mal aux extrémités, comme disait François, et d'ailleurs cette question de la fin de vie, on en avait parlé. Il y est beaucoup question de naissance, on en parle beaucoup en ce moment de la fin de vie, j'essaie de l'aborder de manière, mais pas que philosophique d'ailleurs, j'interroge les philosophes, mais je m'interroge surtout à partir de récits à la première personne de fin de vie, et je le mets en rapport avec cette question de la naissance, en posant cette question que je laisserai en suspens, c'est pas le moment de la traiter, mais peut-on naître en fin de vie.
Alors là, François, je me trompe pas, vous aviez bien écrit aussi un roman, il me semble, c'était au moment du confinement, ouais. Je crois bien. D'ailleurs, vous nous en aviez parlé ici aussi, parce que décidément, vous allez avoir vos rondes serviettes dans l'émission, et où c'était quatre personnes âgées qui avaient décidé de ne pas aller en EHPAD et qui vivaient au dernier étage d'un immeuble, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, merci Patricia de vous en souvenir. Final Fantasy, c'était
voilà,
un roman sur le communisme du quatrième âge, que, effectivement, à cause de nos retraites en déclin et des loyers qui augmentent dans les grandes villes, et ben, en fait, on réussira peut-être mieux le communisme au quatrième âge qu'à l'âge où on voulait aller sur les barricades. C'est un peu l'idée de ce roman sur le... Et là, pour le coup, sur...
Mais il y a des initiatives, il y a des initiatives comme ça. Oui, mais une bien fratrie sûr. Qui devient de fratrie à fraternité, il y a quelque chose.
Bien sûr, et effectivement, c'est très réel, puisque c'est ce qui va se passer, ouais. Pas par choix politique ou amical, par la force des choses. Parce que, voilà, ça va être difficile de vieillir séparément et dans cet isolement douloureux. Quoi.
Vous vieillirez ensemble ? Vous allez vous installer ensemble là, quand vous serez âgé ?
Qu'est-ce que t'en penses ?
Alors ça, c'est une question à laquelle je n'avais pas encore pensé.
Bon, vous êtes un peu jeune pour y penser, mais bon.
Oui, mais je me dis toujours que je vais mourir plus tôt. Mais c'est une idée, c'est une coquetterie sans doute. Hein. Mais j'ai mis ça dans ma tête.
Wishful thinking.
Ça me rassure comme espèce que c'est en rapport avec l'ordre de naissance. Comme si je suis arrivé avant, mais je vais partir aussi avant.
Oui, mais avant de partir, vous allez vivre.
Non, je suis arrivé après, je pars avant.
Voilà, c'est
plutôt,
ça. Pardon, oui, il a du mal. Hein,
ouais, ouais. Il ne faut pas qu'il se réjouisse trop tôt. Il n'est pas sûr qu'il parte vite.
Mais de toute façon, ça vous empêche pas de passer.
C'est un fantasme, c'est un truc, voilà.
Mais ça ne vous empêche pas de passer des années de vieillesse ensemble.
La question, je ne sais pas si on arriverait à.
Est-ce qu'on arrivera à vivre
à bien vivre ensemble. Ça, c'est il y a des frères et sœurs qui y arrivent très bien et qui effectivement font ça. Je crois que c'est un modèle. Il faudra. Je sais pas s'il y a une sociologie de ça, des fratries qui vivent ensemble. C'est je sais pas. C'est très intéressant parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal. Ça peut être aussi un modèle de solidarité intragénérationnelle pour plus tard et un moyen aussi de gérer le déficit des caisses de retraite.
Mais là aussi, hein, c'est-à-dire si on parle de fraternité, la difficulté, c'est que on aura passé une vie, ou en tout cas une enfance, à s'en arracher, encore une fois. Hein, c'est-à-dire à faire autre chose et à vivre l'un sans l'autre. Donc je ne sais pas s'il est même possible de recommencer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, la fraternité, moi, le concept me gêne un peu.
Pourquoi ? Parce qu'on en a quand même bien besoin en ce moment.
On en a absolument besoin, mais à condition de le débarrasser de deux, trois trucs qui me gênent.
Qu'est-ce qui vous gêne ?
Alors le premier truc, mais ça va de soi, non, peut-être pas, c'est un relan chrétien ou religieux, c'est quand même de là que vient cette idée et ce concept. Donc fraternité sans Dieu, là oui, ok.
Mais liberté, égalité, fraternité.
Ah bah dans la devise républicaine, c'est sans Dieu, mais on pourrait aussi dire, les historiens pourraient vous raconter que c'est un reste de christianisme dans la République laïque, mais bon. Et puis le deuxième truc auquel il faut s'arracher, c'est plus important encore, enfin, dont il faut le débarrasser, c'est justement ce familialisme, c'est cette obsession des origines. C'est-à-dire que les frères qu'on ne choisit pas, évidemment, que nous sommes, mais il y a les frères qu'on choisit, donc faire vivre cette fraternité, et là on rentre dans des questions beaucoup plus vastes, qui sont des questions politiques, qui sont des questions de morale et d'éthique, et qui me semblent plus intéressantes que de réduire cette question à une question de sang
mais
commun.
Mais si vous n'étiez pas frère, vous pourriez être ami ?
Je crois, sûrement même. Comment se serait-on rencontré,
parce qu'on a la conversation facile, et c'est un élément essentiel de l'amitié, je pense, cette aisance dans la mutualité de la parole, et la capacité, comme disait François aussi, à accepter la critique de manière, comme on dit aujourd'hui, bienveillante, parce que on veut se critiquer mutuellement pour s'apporter, parce qu'on s'apprécie mutuellement, donc c'est compatible avec l'amitié. Mais après, ça reste une fiction, c'est pas effectivement, on l'a pas choisi, on n'a pas dit on sera amis, mais on choisit quand même de garder une relation, ce qui est de l'ordre du choix amical. Au fond, rien ne nous y contraint, en tout cas on veut pas, comme dit François, on veut être libre de cette relation, on veut la choisir, même si au départ elle a été contrainte, on veut continuer à la vivre en la choisissant, donc ça on l'a choisi.
Yves Cusset, vous nous avez fait un joli cadeau, c'est une exclusivité, ce sont des modules, enfin des podcasts en fait, où vous jouez le rôle d'un spécialiste des relations amoureuses, nous y voilà à nouveau, ça s'appelle le cabinet philosophique du docteur Love. Alors il y a différentes questions qui y sont posées, le sexe et l'amour, est-ce que ce sont deux choses distinctes ? Est-ce qu'on est malade si on aime toujours son conjoint et qu'on n'a pas envie de le tromper ? Comment être sûr que l'on aime ? Toutes ces questions-là et le petit Dylan.
Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 7 ans 3 quarts. Et j'ai un petit problème, mais on n'a pas pris ma question à l'émission Les Petits Bateaux sur France Inter. Je suis amoureux de ma maman, je veux vivre avec elle, je veux me marier avec elle, je veux avoir des enfants avec elle, je veux qu'elle soit toute nue et lui faire plein de câlins. Je suis sûre que si mon papa était pas là, on pourrait faire tout ça. Mais mon papa est là, qu'est-ce que je peux faire ?
Ah Dylan, si tu veux que France Inter prenne ta question, il faut que tu la poses autrement. Demande plutôt, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit d'être amoureux de maman ? Mais ça, j'ai peur que ça fasse un gros nœud dans ta tête. Et un nœud qui peut même s'ancrer profondément en toi. Et profond ? En anglais, tu sais, ça se dit « deep ». Et en psychanalyse, c'est ma spécialité, on aime à entremêler le français et l'anglais. Et de la même manière qu'on parle d'un faux self, hein, qui n'est pas une fausse cafétéria, attention, eh bien le nœud qui est ancré en toi au plus profond s'appelle un nœud deep. C'est un nœud deep qu'il y a dans ta tête de petit Dylan, et même un bon gros nœud bien deep. Ça crève les yeux, comme disait le roi de Thèbes. Bien connu, lui, pour son fameux œdème au pied. Un nœud que pour le dénouer, dit-on, Dylan, ça l'est vraiment très compliqué. Tu sais, c'est Sigmund Freud, bien connu pour être l'inventeur du freudisme, qui avait le premier affirmé que se forme très tôt dans la tête du petit garçon, peut-être même dès la tétée, cette envie de coucher avec maman sur le bout de la langue. Et c'est cette envie qu'il a appelée un œdipe. Ainsi, s'il t'arrive plus tard, Dylan, qu'on te lance « Vas-y, nique ta mère !» Ne le prends pas à mal.
Vous souriez en entendant ça, en vous écoutant, mais non, mais il n'y a pas de honte à ça, Yves Cusset. Vous avez quand même bien dû vous marrer en écrivant, non, ce texte.
Oui, qui est tiré de, effectivement, de mon livre L'amour sur le bout des doigts, dont je me suis dit ça se prête bien à une forme de podcast avec un conseil en direct à la Marcel Ruffaut d'ailleurs, mais sous forme parodique. Oui, c'est amusant à faire et j'en ai fait aussi un spectacle du coup qui s'appelle lui le cabaret philosophique du Dr Love. Oui, j'aime bien ça, c'est-à-dire la forme de l'humour et de la parodie, c'est déformer un objet pour mieux le retrouver et pour mieux en faire un objet à questionner. Oui, j'aime beaucoup. Et ça rejoint aussi la psychanalyse, la manière dont je pense que Lacan, il aurait été assez d'accord avec cette idée d'un Oedipe, voilà, de mélanger le français et l'anglais, d'en faire un nœud si profond qu'on met parfois toute une vie à le dénouer. J'aime bien les mots valises. Je trouve que c'est un moteur de l'humour. J'en ai découvert un très lacanien aussi récemment, dont on pourrait parler ici aussi, qui est un peu l'opposé de la fraternité. C'est la frérocité.
Ah oui.
Et c'est joli ça comme terme, la frérocité. Et c'est vrai que quand on pense aux frères en littérature ou dans la fiction, bah on pense quand même plus à la frérocité qu'à la fraternité.
François Cusset.
Aux frères Wachowski devenus les sœurs Wachowski. Parce que là, je vais... d'abord... bonheur d'entendre voilà le cabaret du Dr Love et le goût de Yves pour ce dénouage et ce nouage par l'humour. En l'écoutant tout à coup je faisais ma féministe. Je me demandais si c'est une vieille question, le complexe d'Oedipe hein a quand même plus de place que l'inverse qu'on appelle parfois le complexe d'Electre. Donc toute la famille tourne autour du petit garçon qui veut coucher avec maman, enfin en tout cas dans le roman freudien, beaucoup plus que de la petite fille qui veut coucher avec papa. Et je me disais, du coup, je faisais des liens un peu bizarres dans ma tête, je me disais, mais de même que le spécialiste en amour et en couple est un homme, et que ce au goût du jeu de mots, alors là, faut faire très attention, évidemment qu'il y a des femmes extrêmement drôles, mais qui, le maniement du jeu de mots, bref, je me disais, c'est une histoire de mec, et on est là, deux frères, à parler de ça, et ce serait intéressant de genrer un peu cette question-là, de savoir si c'est retournable dans l'autre sens, et si effectivement on avait deux sœurs, est-ce qu'on passerait le même genre d'extrait, est-ce qu'on discuterait du jeu de mots, et est-ce qu'on mettrait le désir de coucher avec le parent de l'autre sexe au cœur de la conversation?
C'est la question que pose d'ailleurs qui se pose dans ce podcast dans la deuxième partie. Est-ce qu'on aurait le droit aujourd'hui, puisque le mariage pour tous, un Oedipe pour tous et il se demande si on a le droit d'ailleurs de non seulement de coucher avec le parent de son choix aussi, pas forcément le père. Pourquoi c'est toujours le père puis pourquoi pas aussi élargir un peu la famille et pourquoi les frères et sœurs coucheraient pas aussi un peu, n'auraient pas envie en plus de coucher ensemble et de s'entretuer. Ils ont déjà assez envie de s'entretuer. Pourquoi ils n'auraient pas aussi envie de coucher ensemble? Donc voilà, il y a une sorte de troubles dans la psychanalyse qui naît de ça et de la dégenrisation, je sais pas comment on dit, de ces questions psychanalytiques aujourd'hui.
Je vais pas vous demander si vous avez été tous les deux amoureux de votre mère, mais est-ce que vous avez déjà été amoureux de la même fille?
Il me semble pas. Yves, souvenir
Eh ben moi si, mes cheveux.
Bonjour, bienvenue, le cocu en direct.
Alors là, maintenant, il faut vite mettre un extrait sonore.
La petite fugue de Maxime Le Forestier.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez à fa mi fa mi ré. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le seul qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Yves Cusset, vous parliez tout à l'heure de frérocité. Gérard Haddad, c'était sur France Culture, il est psychiatre et psychanalyste, auteur notamment d'un essai intitulé « Le complexe de Caïn ». Et il fait un parallèle tout à fait intéressant entre la querelle fratricide et la société telle qu'elle va.
Si vous regardez la scène politique, tenez, je vais être un peu terre à terre, mais les primaires, n'est-ce pas, que l'on voit se multiplier dans les partis politiques, ce sont des querelles de frères. Au fond, la querelle des frères, le désir de fratricide, il faut dire les mots tels qu'ils sont, est, me paraît-il, le moteur de la violence dans nos sociétés. Cette violence a longtemps été contenue par le fait que la loi paternelle, la loi du Sinaï, qu'on soit juif ou pas, peu importe, la loi du Sinaï est en quelque sorte inhérente à toute société humaine. C'est une, je cite là mon maître Lacan, la loi du Sinaï a décliné dans l'esprit des gens. Ce déclin du message sinaïtique, l'otirtsah, tu ne tueras point. Tu ne tueras point qui? Ton frère. Cette injonction divine, aujourd'hui, est passée un peu de mode, n'est-ce pas? Et donc, montée des violences, dissolution du lien social. Il faut mettre au jour cette notion de fratricide, de haine du frère qui est première. On le voit chez les grands hommes comme Goethe, comme Freud, lettre 141 à Fliss, où il parle de la haine qu'il a eue de son frère Julius qui est mort. Tout ceci, je pense qu'en le mettant à jour, devrait permettre d'aérer un peu la question et peut-être de contribuer à l'atténuer.
Chaque homme est un Abel et un Caïn, écrivait Albert Cohen. C'est le fratricide fondateur, originel, non, François Cusset?
Le frère primaire, les fratricides dans les primaires. Faut faire attention à peut-être pas étendre trop cette métaphore du frère, parce que voilà, les gens en politique ou dans les mêmes groupes d'intérêts économiques ou autres sont pas des frères. Évidemment, la psychanalyse est obsédée par ces rapports familiaux. D'ailleurs, c'est intéressant, les grands textes religieux aussi. Hein, il s'agit que de ça. Hein. L'Ancien Testament, c'est que voilà, les parents arrivent pas à faire d'enfants, les frères s'entretuent, etc. Faut peut-être effectivement mettre plus de latéral, pas que du vertical, donc frère et sœur, très bien, et pas que l'Oedipe. Mais je sais pas, moi, si j'irais, j'appellerais fratricide les rapports agonistiques d'une violence inédite d'aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, on pourrait aussi retourner le rapport fraternel en truc positif, en communisme de pensée, en lien fort, et puisque c'est une émission de philo, évoquer des philosophes qui furent pas des frères biologiques, mais qui furent des frères de pensée, avec leur distance, hein, que ce soit Deleuze et Guattari, moi, voilà, que j'aime énormément lire, c'est très rare d'écrire à deux, ou que ce soit ces grandes, pour le coup, familles de pensée qu'ont été, moi, je sais pas, les exilés de l'école de Francfort, hein, Hannah Arendt, Walter Benjamin, etc. Ça, pour moi, c'est des fraternités qui m'intéressent plus que les fraternités de sang en philosophie, donc métaphore du voilà, fraternel.
Avec prudence. Ouais. Yves Cusset?
Bah oui, je me disais, c'est un concept un peu abstrait de dire, tu ne tueras pas, ça veut dire tu ne tueras pas ton frère. Pourquoi? Nous ne sommes pas forcément tous frères, effectivement. Ou alors, jusqu'où s'étend ce concept? C'est une vraie question, puisqu'on parle de fraternité. La fraternité concerne pas les frères. Les frères de sang. La fraternité, c'est ce qui doit réunir les membres d'une même communauté. En l'occurrence, dans la devise de la République, c'est ce qui fait qu'on est animé par un sentiment commun et qui nous pousse à nous respecter, à nous assister mutuellement.
L'est-on vraiment? Encore?
Est-ce qu'on n'a jamais eu de la fraternité? C'est difficile à dire. Elle s'est souvent exprimée de manière violente aussi, comme de manière patriotique, avec un fond patriarcal aussi. Cette fraternité, elle justifie surtout qu'on soit mobilisé en même temps, qu'on soit frère d'armes. Hein, c'est un terme qu'on utilise aussi, qui est frère d'armes. C'est important, la fraternité, quand on doit se battre contre un ennemi.
Quand Romain Gary parle de la fraternité entre soldats et qui est effectivement, parce qu'il y a la guerre qui les réunit, il a des phrases très très fortes. Hein.
Ah, c'est très fort, cette fraternité-là, dans un moment aussi intense. Mais justement, là, on encore, on est dans un cadre assez précis. Puisqu'on parlait d'Albert Cohen, qu'est-ce que ça veut dire, frères humains, quand il dit « Oh vous, frères humains ». En quoi on est, en tant qu'homme, ou être humain, on dirait aujourd'hui plutôt...
ça y est, il revient un peu sur ce qu'il a dit, il est moins macho qu'au début de l'émission.
Des frères, vous pas, non, parce que je vais m'interroger aussi sur le sororicide. Bon, il y en a peut-être moins d'exemples dans l'histoire et dans la littérature. Oui, oh vous, frères humains, qu'est-ce que ça veut dire? Il y donne une réponse, hein, l'ami Albert Cohen. Il dit qu'on est frères dès lors qu'on on a une tendresse pour l'autre qui naît du fait qu'on sait qu'il est mortel comme nous, qu'il va mourir, quand on est conscient ensemble, à un moment donné, qu'on va mourir. Donc on a une prise de conscience mutuelle de notre fragilité. C'est d'abord le partage de la vulnérabilité qui fait cette fraternité humaine, qui a un lien aussi avec le non-choisi, parce que le fait qu'on soit mortel, c'est pas choisi non plus. C'est un lien avec cette notion de fraternité. On s'est pas choisi comme frère. On est mortel, on l'a pas choisi, mais c'est ce qui peut aussi faire de cette relation non-choisie une relation libre, qui est de l'ordre de la fraternité.
François Cusset.
Alors, c'est essentiel, ce pressentiment voilà, de la mortalité. C'est ce qui est à l'origine, je pense, des grands liens, des grands affects humains, et en permanence, au quotidien ou à l'échelle d'une vie. Du coup, pourquoi ne pas, là je fais une proposition en direct, ne pas, justement, se débarrasser de cette métaphore fraternelle? Parce que, après tout, la famille, c'est quand même le tracé d'une frontière entre un dedans et un dehors. Donc on pourra toujours dire fraternité universelle, c'est le message, là aussi, chrétien, mais en vérité, c'est quand même rhétorique, parce que il y aura toujours, effectivement, frères d'armes, frères de pensée, il y aura toujours les ennemis. Et on est frères parce qu'on a à faire cause commune contre un ennemi. Donc pourquoi ne pas se débarrasser de la métaphore familiale pour essayer de tisser des liens qui ne soient pas des liens des deux côtés d'une frontière, dedans, dehors, quoi. Pourquoi ne pas se débarrasser de la frontière elle-même?
Famille, je vous hais, famille au pluriel, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur, écrit André Gide dans Les nourritures terrestres.
Cette phrase est passée complètement inaperçue d'abord. Et elle n'a pris son caractère provocateur que quand elle a été dépouillée de son contexte, quand on supprime ce qui suit le famille je vous hais, foyer clos, porteur fermé, et c'est évidemment, ça prend un caractère provocateur et absolu que cela n'avait pas dans mon esprit. N'empêche que je suis fort content de l'avoir écrit, et je la maintiens. On est venu dire que je me plaignais, que j'avais à me plaindre de ma propre famille, ce qui est absolument faux. Je n'ai absolument eu qu'à me féliciter des miens, n'est-ce pas, qui ont toujours été parfaits pour moi. Je n'ai absolument pas eu personnellement à souffrir de ma famille. Je crois que dans les Faux Monnayeurs, il y a certains passages sur cet égoïsme familial qui explique exactement ce que je voulais dire par ces mots, cette phrase. C'est la cellule sociale avec tout l'égoïsme que cela comporte.
C'est intéressant, ça, ce sujet, l'égoïsme familial. Est-ce que vous y êtes sensible à ça?
L'égoïsme collectif, le narcissisme collectif,
ouais,
et l'album de photos de famille, c'est ça,
ouais,
c'est quand même ce groupe-là. Donc évidemment qu'on en a tous besoin et que ce culte-là nous fait tenir ensemble, nous réjouit, nous rappelle les bons et les mauvais souvenirs. Mais c'est ça dont parle Gide, oui, c'est pas la sienne, la famille qu'il est, ni nous, Yves et moi, la nôtre. C'est ce familialisme et cet égoïsme collectif qui a ses limites, ouais.
Qui fait que de ce point de vue-là, la famille est une cellule. J'aime bien l'ambivalence de ce mot aussi qu'il utilise, cellule sociale. L'air de rien, ça renvoie à l'idée de noyau dont on a besoin pour se sentir exister, et en même temps à la notion d'enfermement.
Et à la fin de l'année, par exemple, il arrive que beaucoup de personnes qui vivent seules, quelquefois isolées même, et voient des familles se déplacer, se recevoir pour Noël, Nouvel An, etc. Et ça devient quelque chose d'insupportable parfois.
Oui.
C'est ça aussi l'égoïsme familial.
C'est aussi, ces moments d'immense solitude qu'on a comme ça à date fixe chaque année sont ceux aussi, où on voit. Alors après, c'est les accidents de la vie qui font qu'on est seul et sans famille. Mais là aussi, moi, je voudrais sortir du destin tragique et rappeler qu'il y a des gens qui, tout en s'entendant très bien avec leur famille biologique, refusent ce familialisme, se créent des familles, qu'elles soient politiques, artistiques, amicales, et ce que vous voulez, et qui sont plus importantes que la leur. De famille.
Dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre vraiment en colère chez l'autre ?
Alors là, ça devient plus psycho, attention.
Non, parce que vous allez nous élever par votre réponse.
Chez l'autre, chez
François, évidemment.
En haut, hein, oui.
Non, enfin, vous y mettez un A majuscule si vous voulez.
D'accord. Mais... Qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère? C'est François qui peut le dire, parce que ça m'arrive de me mettre en colère quand j'entends certaines choses. Mais...
Ne me dites pas que vous n'avez pas eu des colères quand vous étiez, au moins quand vous étiez petit, même si ce n'est pas maintenant.
Énormément de colère. C'est compliqué, parce que d'abord, moi, j'ai pour propre de l'oublier. Les colères, c'est comme ça que je survis. Ensuite, oui, il y a des rivalités. Les rivalités provoquent des colères. Mais je pense que nos colères, l'un contre l'autre, Yves et moi, qui ont eu lieu, comme tous les frères, n'avaient pas vraiment la rivalité pour enjeu. Elles se déplaçaient ailleurs. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. On s'engueule sur je ne sais pas quoi. T'as encore pas fait la vaisselle quand on est en Bretagne l'été, ensemble, en famille. Des conneries.
Il fait jamais la vaisselle, donc
non,
aussi, c'est une info.
Ça, mais, en tout cas, on déplace sur des trucs. C'est une grosse info. Scoop, breaking news.
Attention, je vais me mettre en colère.
Mais je pense que les vrais sujets sur lesquels on pourrait se mettre en colère ne sont pas abordés, ne provoquent pas de colère. C'est la définition même de la colère.
En tout cas, vous n'aurez pas de réponse, on n'a plus le temps, Yves. Je suis désolée.
C'est dommage. Par contre, il faudra que tu me dises avec, quelle est la femme de ma vie que tu as aimée.
Bon, mais ça, hors antenne, peut-être. François Cusset, Petit Musque, Contes et Légendes. C'est aux éditions des Buscla et ça sort le 19 juin. Et puis, il y a aussi une bande dessinée à l'automne, enfin en septembre, qui va sortir.
French Theory, itinéraire d'une pensée rebelle, qui sort en septembre et qui va être fun.
Fun, et là, c'est l'histoire un peu dingue de quelques philosophes, c'est ça? Il y a beaucoup d'insolence.
Voilà, alors c'est un remake de mon essai d'il y a 20 ans sur la French Theory, donc sur cette génération philosophique et son succès mondial et américain, mais en dessin. Donc là, on essaie de faire penser en dessin.
Et quand est-ce qu'Yves Cusset monte sur scène? D'abord à Avignon, puis à Paris?
Absolument, à Avignon, il y aura deux spectacles, La vie rêvée des philosophes et le cabaret du Dr Love.
Toutes les dates sont sur notre site.
Voilà, toutes les dates sont sur le site. Et ensuite, ça sera à Paris toute la saison prochaine au théâtre Le Funambule Montmartre.
Donc il faudra venir vous voir, évidemment. Et voire même vous applaudir.
Oui, c'est un protocole, ça se fait. Mais en tout cas, il est impératif de venir. Ça, c'est une obligation morale, bien sûr.
Yves Cusset, François Cusset, merci à tous les deux d'avoir été nos invités.
Patricia.